Platon, Charmide, traduction Victor Cousin, suite. À cela, je lui répondis, Critias, tu agis avec moi comme si je prétendais savoir ce que je cherche à apprendre, et comme s'il ne tenait qu'à moi de pouvoir être de ton avis. Mais il n'en est pas ainsi, et il faut que je cherche avec toi la solution du problème, car je ne la sais pas encore. Quand j'y aurai bien pensé, je te dirai si j'admets ou non ce que tu avances, mais attends que je l'ai examiné. Commence donc cet examen, dit-il. C'est ce que je vais faire. Si la sagesse consiste à connaître quelque chose, nul doute qu'elle ne soit une science. Qu'en dis-tu ? C'en est une, Socrate, la science de soi-même. Et la médecine, n'est-ce pas la science de guérir? D'accord. Si tu me demandais, la médecine qui est la science de guérir, à quoi sert-elle? Quels fruits en tirons-nous? Je te répondrais, un fruit assez précieux, la santé. Et tu m'avoueras que ce n'est pas un médiocre avantage. Je l'avoue. Si tu me demandais ensuite à quoi nous sert l'architecture, la science de bâtir, je répondrais qu'elle nous procure des maisons, et ainsi de tous les arts. Tu dois en pouvoir faire autant de la sagesse, qui est, dis-tu, la science de soi-même, si on venait te demander, Critias, la sagesse, qui est la science de soi-même, quel fruit précieux et digne en effet de son nom pouvons-nous en attendre? Réponds un peu, je te prie. Mais Socrate, ton raisonnement n'est pas juste, car cette science est par sa nature bien différente des autres, qui elles-mêmes ne se ressemblent pas les unes aux autres. Et tu pars de ce principe que toutes sont semblables. Dis-moi où trouver des produits de l'arithmétique et de la géométrie, comme nous voyons dans une maison le produit de l'architecture, et dans un manteau celui de l'art du tisserand, et ainsi dans une foule d'ouvrages que nous devons à beaucoup d'art. Peux-tu également montrer des produits de ces sciences? Non, sans doute. Tu as raison, lui dis-je, mais du moins je puis te montrer de quoi chacune d'elles est la science, et qui est toujours autre chose que la science elle-même. Ainsi, l'arithmétique est la science des nombres pairs et impairs, de leurs rapports et de leurs combinaisons, n'est-ce pas? Il est vrai. Mais le pair et l'impair est assurément autre chose que l'arithmétique elle-même. Se peut-il autrement? La statique est la science de la pesanteur. Mais la pesanteur n'est pas la même chose que la statique. Tu me l'accordes? Très volontiers. Dis-moi donc, de quoi la sagesse et la science qui soient autre chose que la sagesse elle-même? Voilà le mal, Socrate. De question en question, tu arrives à voir comment la sagesse se distingue des autres sciences, et cependant, tu cherches à lui trouver une ressemblance avec elle. Loin de là, toutes les autres sciences sont des sciences de quelque chose autre qu'elle-même. La sagesse seule est la science et d'elle-même et des autres sciences. Il s'en faut bien que cette distinction te soit échappée, mais quoique tu l'aies nié tout à l'heure, je crois que tu le fais exprès pour me contredire et que tu ne veux pas aborder le fond de la question. Comment, lui dis-je, peux-tu croire que, si en effet je te contredis, ce soit par un autre motif que celui qui me ferait m'interroger moi-même sévèrement en pareil cas. Je veux dire, la crainte de croire savoir ce que pourtant je ne saurais pas. Et je t'assure encore, je ne cherche ici à éclaircir cette question que pour mon propre bien et celui peut-être de quelques bons amis. Car n'est-ce pas un profit commun à tous les hommes que la vérité soit connue sur toute chose? J'en suis persuadé, Socrate. Eh bien donc, mon ami, courage, réponds à mes questions et dis ce qu'il t'en semble sans regarder auquel restera la victoire de Critias ou de Socrate. Et ne t'occupe que de savoir comment nous mettrons fin à nos recherches. Soit, reprit-il, j'y consens, car ce que tu me proposes me semble raisonnable. Dis-moi donc, repris-je, ce que tu entends au juste par la sagesse. Je pense, dit-il, que seule entre toutes les sciences, la sagesse est la science d'elle-même et des autres sciences. Mais si elle est la science de la science, ne le sera-t-elle pas aussi de l'ignorance? Assurément. En ce cas, le sage sera seul capable de se connaître lui-même, de juger ce qu'il sait réellement et ce qu'il ne sait pas, ainsi que de reconnaître dans les autres ce qu'ils savent et croient savoir, comme ce qu'ils croient savoir et ne savent pas, tandis qu'aucun autre n'en sera capable. En un mot, la sagesse, être sage et se connaître soi-même, c'est savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Est-ce bien là ta pensée? Parfaitement. Encore une fois donc, et c'est la troisième fois, afin de compléter le bon nombre, commençons à examiner d'abord s'il est possible de savoir qu'un autre sait ou non ce qu'il sait et ne sait pas. Et ensuite, en supposant que cela soit possible, voyons à quoi il nous servirait de le savoir. C'est ce qu'il faut chercher. Viens donc, Critias, et tâche pour cela de trouver un meilleur parti que moi, car je n'en vois aucun. Mais veux-tu que je t'apprenne d'où vient mon embarras? Volontiers. Si tout ce que tu as dit est exact, la sagesse n'est-elle pas une science qui n'est la science d'autre chose que de soi-même et des autres sciences, et en même temps la science de l'ignorance? Oui. Vois donc, mon ami, quelle chose singulière nous nous chargeons de défendre. Essaie de l'appliquer à d'autres objets, et tu ne croiras pas qu'elle soit possible. Comment, Socrate? Par exemple, t'imagines-tu une vue qui ne verrait pas les objets qu'une autre vue aperçoit, mais qui ne verrait qu'elle-même, et toute autre vue, et même encore ce qui n'est pas vu, qui enfin ne verrait aucune couleur bien qu'elle soit une vue, et qui s'apercevrait elle-même ainsi que toute autre vue? Cela te paraît-il possible? Non, par Jupiter. Ou une oui qui n'entendrait aucune voix, mais elle-même et tout autre oui, et même ce qui n'est pas oui. Pas davantage. De même, si tu passes en revue tous les sens, crois-tu qu'il y ait un sens des autres sens et de lui-même qui pourtant ne sente rien de ce qu'éprouvent les autres sens? Non, certes. Peut-il y avoir un désir qui n'est pas pour objet un plaisir quelconque, mais lui-même et d'autres désirs? Jamais. Une volonté qui se voudrait elle-même et d'autres volontés, et non pas un bien quelconque? Nullement. Ou voudrais-tu soutenir qu'il y ait un amour qui ne se rapporte à aucune beauté, mais seulement à lui-même et à d'autres amours? Je n'y songe pas. Aurais-tu vu déjà une peur qui s'effraya de soi-même et d'autres peurs sans avoir aucun objet d'effroi? Pas encore. Mais peut-être une opinion qui fut une opinion d'autres opinions et d'elle-même sans avoir aucun des objets des autres opinions? Pas du tout. Et nous soutenons qu'il y a une science qui n'est science de rien en particulier, mais la science d'elle-même et des autres sciences. En effet, nous le soutenons. N'est-ce pas une chose bien extraordinaire si elle est ainsi. Toutefois, ne nous pressons pas de nier qu'elle soit et cherchons si elle est réellement. Tu as raison. Eh bien, cette science est sans doute la science de quelque chose. Il faut bien qu'elle ait cette propriété, n'est-ce pas? Il est vrai. Comme c'est la propriété d'un corps plus grand, d'être plus grand que quelque chose. D'accord. Que quelque chose de plus petit, n'est-ce pas? Puisque ce corps est supposé plus grand. Nécessairement. Et si nous rencontrions un corps plus grand que d'autres plus grands et que soi-même, sans être plus grand que les choses que surpasse en grandeur celles qu'il surpasse lui-même. Ne lui arriverait-il pas alors d'être à la fois plus grand et plus petit que lui-même? Ne le crois-tu pas? Sans aucun doute, Socrate. Et si une chose est le double des autres doubles et de soi-même, les autres doubles et elles-mêmes ne sont que des moitiés relativement à elle, considérées comme doubles, car il ne peut y avoir de double que d'une moitié. C'est juste. Elle est donc à la fois plus et moins qu'elle-même, plus pesante et plus légère, plus vieille et plus jeune. Et de même, pour toute chose qui ayant la propriété de se rapporter à elle-même, devra avoir en elle ce à quoi elle a la propriété de se rapporter. Je m'explique. L'ouïe n'entend que la voix, n'est-il pas vrai? Oui. Si donc elle doit s'entendre elle-même, il faut qu'elle ait une voix, car autrement elle ne peut entendre. Cela est incontestable. Et la vue, mon cher, s'il faut qu'elle se voie elle-même, devra aussi avoir une couleur, car la vue ne peut rien apercevoir qui soit sans couleur. Certainement non. Ainsi donc, Critias, par tous les exemples que nous venons de parcourir, il paraît impossible ou très peu croyable qu'une chose puisse avoir jamais la propriété de ne se rapporter qu'à elle-même. En effet, pour la grandeur, pour les nombres et pour toutes les choses de ce genre, cela est impossible, n'est-ce pas? Oui. Quant à l'ouïe, à la vue, au mouvement qui se ferait mouvoir lui-même, à la chaleur qui s'échaufferait elle-même, cela pourrait paraître bien difficile à croire, mais peut-être y en aurait-il qui l'admettraient. Il n'appartient, mon ami, qu'à un homme de génie de décider en général si rien ne peut avoir la propriété de ne se rapporter qu'à soi-même, ou si cette propriété doit être attribuée à certaines choses et non pas à d'autres. Si enfin, dans ce dernier cas, on peut compter au nombre de celles qui ne se rapportent qu'à elles-mêmes, la science dans laquelle consiste, selon nous, la sagesse. Quant à moi, je ne me crois pas capable de trancher cette question, et par cette raison, je ne saurais affirmer avec certitude s'il est possible qu'il y ait une science de la science. Et en supposant qu'elle existe, je ne puis encore convenir que ce soit là la sagesse, à moins d'avoir examiné d'abord si, étant elle, elle nous serait utile ou non. Car je soupçonne que la sagesse doit être quelque chose de bon et d'utile. Mais toi, fils de Callaiscros, si, comme tu l'affirmais, la sagesse est la science de la science ainsi que de l'ignorance, prouve-moi d'abord que cela soit possible, et ensuite que cela soit utile. Peut-être ne m'en faudra-t-il pas davantage pour me convaincre que tu as bien défini la sagesse. Alors, Critias, qui me vit embarrassé, me parut comme ces gens qui, en voyant bâiller d'autres devant eux, ne peuvent s'empêcher d'en faire autant. Mon incertitude semblait l'avoir gagnée. Coutumé à ne recevoir que des éloges, il était tout honteux devant les assistants et n'avait guère envie d'avouer qu'il était incapable de donner les preuves qu'on lui demandait. Il ne disait rien de positif et ne songeait qu'à celer son embarras. Cependant, pour ne pas en rester là, je lui dis « Eh bien, Critias, si tu le veux, nous allons supposer pour l'instant qu'il peut y avoir une science de la science, sauf à chercher une autre foi si réellement il en est ainsi. Viens donc et dis-moi, s'il se peut, comment il devient par là plus facile de savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Car n'avons-nous pas dit que c'est là se connaître soi-même et être sage? N'est-il pas vrai? » Sans doute, et c'est une conséquence naturelle, car celui qui possède la science, qui se sait elle-même, doit être comme ce qu'il possède. Il sera vif s'il a la vivacité, beau s'il a la beauté, savant s'il a la science. Et s'il a la science qui se sait elle-même, il devra aussi se connaître lui-même. Je ne doute pas que celui qui possède ce qui se connaît soi-même ne se connaisse lui-même aussi. Mais je demande si celui-là doit nécessairement savoir ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Oui, Socrate, parce que c'est la même chose. Peut-être, repris-je, mais vois, j'ai bien l'air d'être toujours comme j'étais, car déjà je ne comprends pas comment se connaître soi-même et savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, ce peut être la même chose. Que veux-tu dire? Demanda-t-il. Je veux dire, s'il y a une science de la science, sera-t-elle en état de discerner autre chose, si ce n'est que de deux choses, l'une est une science, l'autre n'en est pas une? Non, elle ne saura que cela. Maintenant, est-ce une même chose, la science ou l'ignorance de ce qui est saint, et la science ou l'ignorance de ce qui est juste? Nullement. Or, dans le premier cas, c'est la médecine, dans l'autre, c'est la politique, et il s'agit ici de la science. Eh bien, celui qui ne connaît ni ce qui est juste, ni ce qui est saint, mais seulement la science, comme il n'a la science que de la science, saura bien probablement de lui-même et des autres qu'il sait qu'il possède une science, n'est-ce pas? Oui. Mais ce qu'il sait, comment le saurait-il par le moyen de cette science? Car il sait ce qui est sain par la médecine et non par la sagesse. L'harmonie par la musique et non par la sagesse. Ce qu'il faut bâtir par l'architecture et non par la sagesse. De même, enfin, pour tout. N'ai-je pas raison? Tout à fait. Par la sagesse seule, si elle n'est que la science de la science, comment saura-t-il qu'il sait ce qui est saint ou ce qui concerne l'art de bâtir? En aucune façon. Celui qui ne sait pas cela saura bien qu'il sait, mais non pas ce qu'il sait. Il paraît. Donc, la sagesse et être sage ne serait pas de savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, mais seulement, à ce qu'il semble, que l'on sait et que l'on ne sait pas. Apparemment. Avec cette science, on ne sera pas non plus en état d'examiner dans un autre s'il sait réellement ou ne sait pas ce qu'il prétend savoir. Tout ce dont on pourra s'assurer, c'est qu'il possède une science. Mais de quoi? La sagesse ne saurait nous l'apprendre. Non, certes. On ne pourra donc distinguer celui qui se donne pour médecin sans l'être de celui qu'il est en effet et de même, en toute chose, l'habile de l'ignorant. Arrêtons-nous sur ce point. Le sage, ou tout autre homme, pour reconnaître le véritable et le faux médecin, ne s'y prendra-t-il pas de cette manière? Il ne l'interrogera pas sur la médecine. Car le médecin, disions-nous, ne connaît que ce qui est utile ou nuisible à la santé. Ou avons-nous dit autre chose? Non. Maintenant, il ne sait rien de la science, car nous l'avons attribuée uniquement à la sagesse.
Oui.
Donc le médecin ne sait rien de la médecine, puisque la médecine est une science.
Il paraît bien.
Le sage, il est vrai, reconnaîtra bien que le médecin possède une science, mais pour savoir quelle elle est, ne faudra-t-il pas chercher de quoi elle est la science? Car chaque science se distingue non seulement parce qu'elle est science, mais particulièrement parce qu'elle est telle science, c'est-à-dire la science de telle chose. Par exemple, ce qui distingue la médecine des autres sciences, c'est qu'elle s'occupe spécialement de ce qui regarde la santé.
Oui.
Donc, pour examiner quelqu'un sur la médecine, il faut l'interroger sur ce qui la concerne, car ce ne sera pas, j'espère, sur des choses qui lui seraient étrangères.
Non, sans doute.
Pour bien faire, c'est donc sur ce qui a rapport à la santé qu'il faut examiner le médecin pour connaître son mérite.
Il me semble, oui.
Et ce sera en recherchant avec soin si tout ce qu'il dit ou fait est conforme à la vérité ou à la meilleure pratique.
Nécessairement.
Mais sans connaître la médecine, quelqu'un pourrait-il suivre cet examen avec succès?
Non, certes.
Ainsi, personne d'autre qu'un médecin n'en serait capable à ce qu'il paraît, pas même le sage. Car, outre la sagesse, il faudrait encore qu'il sût la médecine.
En effet.
Donc, de toute manière, avec la sagesse, si elle n'est que la science de la science et de l'ignorance, on ne saurait distinguer le médecin qui sait son art de celui qui ne le sait pas et qui s'imagine le savoir, ni dans aucun autre art reconnaître le mérite de chacun, excepté toutefois dans l'art que l'on pratique soi-même. Mais tous les artistes en peuvent faire autant.
Il est vrai, dit-il.
Eh bien, Critias, quels fruits recueillerons-nous de la sagesse ainsi réduite? Si le sage, comme nous le prétendions d'abord, pouvait savoir ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas. Je veux dire, s'il savait qu'il connaît telle chose et ne connaît pas telle autre, et s'il pouvait juger de même les autres hommes. Alors, j'en conviens, il nous serait infiniment utile d'être sages, car nous pourrions passer notre vie sans faire de faute, nous et tous ceux qui seraient sous notre influence. En effet, nous nous garderions de rien entreprendre que nous ne sussions pas bien. Et allant chercher ceux qui le sauraient, nous leur en confierions le soin. Et nous ne laisserions faire à tous ceux dont nous pourrions disposer que ce qu'ils sauraient bien faire, c'est-à-dire les choses dont ils ont la science. Sous le régime de la sagesse, une famille, un État serait bien administré. Toutes choses enfin où présiderait la sagesse. Car là où les fautes sont évitées, où tout se fait bien, un tel gouvernement serait le règne de la justice et de la raison qui produisent nécessairement le bonheur. N'est-ce pas là, Critias, ce que nous dirions de la sagesse pour montrer quel précieux avantage ce serait de savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas?
Oui, sans doute.
Mais tu vois qu'une pareille science n'existe nulle part.
Je le vois.
Mais peut-être la sagesse telle que nous l'avons définie, savoir la science de la science et de l'ignorance, a-t-elle cela de bon que celui qui la possède apprend plus facilement tout ce qu'il veut apprendre et que tout lui paraît plus clair quand, à côté de tout ce qu'il apprend, il aperçoit la science. Et peut-être par là, pourra-t-il mieux juger les autres sur tout ce qu'il a appris lui-même. Tandis que ceux qui veulent le faire sans la sagesse ne porteront que des jugements faux ou superficiels. Est-ce là, mon ami, un des avantages que nous tirerons de la sagesse? Ou avons-nous d'elle une plus haute idée qu'elle ne mérite? Et lui cherchons-nous un prix qu'elle n'a pas?
Cela peut être, répondit-il.
Peut-être, repris-je, mais peut-être aussi avons-nous cherché quelque chose de tout à fait inutile. Je dis cela parce qu'il me vient sur la sagesse des idées qui seraient tout à fait singulières si elle était ce que nous pensons. Voyons, si tu veux. Admettons qu'il soit possible qu'il y ait une science de la science. Supposons encore ce que nous disions d'abord de la sagesse, qu'elle consiste à savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et, sans combattre ce principe, examinons plutôt avec soin si, avec tout cela, elle pourra nous être utile. Car ce que nous disions tout à l'heure, que la sagesse, si elle était telle que nous la supposions, serait un trésor précieux et le meilleur gouvernement pour les familles et les États, cette assertion, Critias, ne me paraît pas très exacte.
Comment donc?
C'est que nous sommes convenus, plus haut, que ce serait un grand bien pour les hommes si chacun faisait ce qu'il sait et laissait à d'autres, mieux instruits, le soin de faire ce qu'il ne sait pas.
Et n'avons-nous pas eu raison?
Il me semble que non.
Voilà en effet, Socrate, de singulières idées.
Oui, je te jure, je suis moi-même de ton avis, et c'est à quoi je pensais tout à l'heure en disant qu'il me venait de singulières idées, et je craignais bien que nous n'eussions pas raisonné juste. Car en vérité, quand même la sagesse serait tout ce que nous avons dit, il n'est pas encore prouvé pour moi qu'elle nous fasse aucun bien.
Comment?
Explique-toi que nous sachions ce que tu penses.
Je crois bien, repris-je, que je suis en délire.
Mais encore faut-il ne pas laisser passer légèrement et sans examen les idées qui nous viennent à l'esprit pour peu que l'on s'intéresse à soi-même.
À merveille.
Écoute donc mon songe et juge s'il est sorti de la porte d'ivoire ou de la porte de corne. Quel que soit sur nous l'empire de la sagesse, en la supposant telle que nous avons dit, qu'en résulte-t-il après tout?
Qu'un homme qui prétendrait être pilote sans connaître son art ne pourrait nous abuser, non plus qu'un médecin, un général, qui se donnerait pour savoir ce qu'ils ne savent pas.
En cet état de choses, aurions-nous d'autres avantages à espérer, si ce n'est une meilleure santé pour le corps, une garantie plus sûre contre les dangers de la mer et de la guerre, et une certaine perfection pour nos meubles, nos habillements, nos chaussures, et toutes choses de ce genre, parce que nous nous servirions de vrais artistes. Même, si tu veux, prenons aussi l'art du devin pour la science de l'avenir, et que la sagesse nous serve de guide pour nous préserver des charlatans et nous faire découvrir les vrais devins, ceux qui lisent dans l'avenir.
Je conçois bien que l'espèce humaine, ainsi gouvernée, pourrait vivre suivant la science, car la sagesse, toujours attentive, ne souffrirait pas que l'ignorance vînt se mêler à nos travaux, mais que, pour vivre suivant la science, nous devions vivre heureux, c'est, mon cher Critias, ce que je ne vois pas encore.
Alors, dit-il, je ne sais où tu trouveras mieux ce qui constitue le bonheur de la vie si la science ne l'explique pas.
Apprends-moi encore seulement une petite chose. De quelle science veux-tu parler?
Est-ce l'art de faire des sandales?
Non, par Jupiter.
Ou de travailler le fer?
Pas davantage.
Ou la laine, le bois et toutes choses pareilles?
Nullement.
Alors, ne nous arrêtons pas à ce principe.
que celui-là vit heureux qui vit selon la science. Car ces artisans possèdent une science. Tu ne veux pas convenir qu'ils soient heureux. Et tu parais ne reconnaître comme tels que ceux qui possèdent certaines sciences. Qui donc est heureux? Celui dont je parlais tout à l'heure, qui connaît l'avenir, le devin? Ou serait-ce un autre? Celui-là et d'autres encore. Lesquels? Serait-ce celui qui, avec l'avenir, connaîtrait le passé et le présent, et à qui rien ne serait inconnu? Supposons qu'il existe un tel homme. Tu ne diras pas, je pense, que personne vive mieux suivant la science. Non, sans doute. Mais il me manque encore une chose, c'est de savoir laquelle de toutes ces sciences le rend heureux, ou si tout y contribue également. Non, pas également. Laquelle donc en particulier? Et que lui fait-elle connaître dans le présent, le passé et l'avenir? Est-ce le jeu d'échecs? Ah, le jeu d'échecs? Ou l'arithmétique? Pas davantage. Ou la médecine? Plutôt cela. Mais enfin, celle qui principalement le rend heureux, que lui apprend-elle? Le bien et le mal, dit-il. « Oh, méchant, repris-je, tu me fais tourner depuis si longtemps dans un cercle, sans me dire que vivre heureux, ce n'est pas vivre, suivant la science en général, ni avec toutes les sciences réunies, mais suivant celle qui connaît le bien et le mal. Au reste, dis-moi, Critias, si tu sépares cette science des autres, en serons-nous moins guéris par la médecine ?» Moins bien chaussé par l'art du refaiseur de sandales, moins bien habillé par le tisserand. La science du pilote nous sera-t-elle moins utile sur la mer et celle du général à la guerre? Non. Mais mon cher Critias, si cette science nous manque, toutes les autres sciences ne serviront point à notre bonheur. Il est vrai. Et cette science, à ce qu'il paraît, n'est pas la sagesse. Mais la science dont l'objet est de nous être utile, car elle n'est pas la science de la science et de l'ignorance, de sorte que, si c'est elle qui nous est utile, alors la sagesse doit être pour nous autre chose qu'utile. Comment, dit-il, elle ne serait pas utile? S'il est reconnu que la sagesse est la science de la science, et qu'elle est à la tête de toutes les autres sciences. Elle doit être au-dessus de la science du bien, et par conséquent nous être utile. Est-ce elle, repris-je, qui nous guérit, et non pas la médecine? Et pour toutes les autres sciences, se charge-t-elle de leurs affaires ou chacune n'a-t-elle pas les siennes? D'ailleurs, n'avons-nous pas depuis longtemps reconnu quelle est la science de la science et de l'ignorance? Et rien de plus, n'est-ce pas? Il est vrai. Elle ne saurait donc nous procurer la santé? Non. Parce que la santé est l'objet d'une autre science, tu en conviens. D'une autre science. Donc, mon ami, elle ne saurait non plus nous procurer l'utile puisque nous venons d'en faire l'objet d'une autre science, n'est-il pas vrai? J'en conviens. Comment donc la sagesse peut-elle être utile si elle ne nous procure aucune utilité? En aucune manière, Socrate, à ce qu'il semble. Tu vois donc, Critias, combien j'avais raison de craindre pour moi et de m'accuser d'avance de ne savoir rien tirer de bon de nos recherches sur la sagesse. Car sans doute, ce qui paraît à tous le bien le plus précieux ne nous semblerait pas privé de toute espèce d'avantage si j'étais le moins du monde habile à bien examiner les choses. Mais nous voilà battus de toutes parts sans pouvoir trouver quel sens a pu attacher au mot « sagesse » celui qui l'a fait. Et pourtant, à combien de suppositions ne nous sommes-nous pas livrés sans pouvoir l'éprouver? D'abord, Nous avons supposé qu'il y a une science de la science, quoique la suite de nos raisonnements n'ait pu seulement nous en faire admettre l'existence. Ensuite, nous avons supposé gratuitement qu'elle embrassait les objets des autres sciences, afin de mettre le sage à même de savoir qu'il sait ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Et nous avons fait nos concessions assez libéralement, puisque nous n'avons pas considéré qu'il est impossible de savoir en aucune façon ce qu'on ne sait absolument pas. Car le principe que nous accordions supposait la possibilité de cette connaissance, et à mon avis, rien n'est plus absurde. Mais pourtant, avec toute notre complaisance et notre facilité, notre discussion n'a pu nous conduire à aucun résultat. Au contraire, elle semble s'être jouée de la vérité et, quoi que nous ayons supposé ou inventé pour définir la sagesse, elle a toujours fini par nous en prouver l'inutilité avec une sorte d'orgueil insultant. Je n'en suis pas très affligée pour moi, mais à cause de toi, Carmide, je souffre beaucoup de voir qu'avec une telle figure et un esprit si sage, tu ne doives tirer aucun fruit de cette sagesse et qu'elle ne puisse te servir à rien dans le cours de ta vie. Mais ce qui m'afflige plus encore, c'est que je me sois donné tant de peine à apprendre cette sentence du médecin de la Thrace pour finir par connaître une chose d'aussi peu de valeur. Non, je ne puis croire qu'il en soit ainsi. Mieux vaut penser que je ne sais pas chercher la vérité, que la sagesse est un grand bien et que tu es très heureux si tu la possèdes. Vois donc si tu la possèdes en effet et si tu n'as aucun besoin de la sentence, car tu la possèdes. Je t'engage plutôt à ne voir en moi qu'un rêveur, incapable de rien conduire à bien dans la conversation, et à te croire d'autant plus heureux que tu seras plus sage. Alors, Carmide. Par Jupiter, dit-il, je t'assure, Socrate, que je ne sais si je la possède ou non. Et comment le saurais-je si tous les deux vous n'êtes pas capables de trouver ce qu'elle peut être, comme tu le prétends de toi? Pour ma part, je ne te crois guère, et je sens que j'ai pour moi un grand besoin de ton charme. Aussi ne tiendra-t-il pas à moi que je ne m'y soumette tous les jours, jusqu'à ce que tu me dises que c'est assez. Très bien, s'écria Critias, fais-le, Carmide, et je trouverai que tu la possèdes, cette sagesse, si tu t'abandonnes à Socrate pour subir son charme, et si tu ne le quittes plus un seul instant. Oui, dit le jeune homme, je veux le suivre et ne le point quitter. D'ailleurs, ce serait mal à moi de ne pas t'obéir, à toi, mon tuteur, et de ne pas faire ce que tu m'ordonnes. Oui, certes, je te l'ordonne. Aussi, je le ferai, répondit Carmide, à partir d'aujourd'hui. Eh bien, repris-je, que tramez-vous là entre vous deux? Rien, dit Carmide, car la trame est toute ourdie. Quoi? La violence, sans me laisser aucun choix? Oui, la violence, et j'y aurai recours puisqu'il m'en donne l'ordre. Vois pour toi quelle partie tu veux prendre. Mais je n'en ai plus à prendre, car si tu te mets quelque chose en tête et menaces encore de violence, qui serait capable de te résister? Alors, ne résiste donc pas. Je m'en garderai bien.